Bonjour tout le monde, mon nom est Étienne Harvé.
Moi c'est Marc Vallière.
Philippe Gamache.
Et ensemble, nous sommes les Aventureux.
Eh oui.
Aujourd'hui, on va parler d'un gros jeu. Un gros jeu que tout le monde connaît.
c'est pas du tout un gros jeu. Non. C'est même pas connu, c'est à peine... c'est un petit jeu indépendant.
On va vous donner les initiales, puis c'est à vous de deviner c'est quoi. D, E, D. Oh, oh, surprise, suspense. Évidemment, on va parler de Donjons et Dragons 5e.
Diplomatie et démagogie, c'est ça?
Oui, exactement.
Démon et Dieu.
Démon et Dieu, oui. Ouais. C'est ça, on va parler de la 5e édition. On est conscient que plusieurs la connaissent déjà, mais on va en parler, un, pour vous donner notre opinion, mais aussi pour les gens qui sont encore, par exemple, dans la 2e, 3e édition de Donjons & Dragons, Pathfinder, qui sont intéressés par la 5e, mais qui se demanderaient un peu à quoi ça ressemble, en général. Fait qu'on va parler de ça, un peu de surtout du Player's Handbook. On va pas rentrer dans le guide du maître ou dans les monstres nécessairement, on va se concentrer sur la base. Si vous voulez regarder un peu en même temps, il y a les règles de base gratuites sur le site de Wizards of the Coast. Fait que je n'ai pas pour aller les chercher. Fait que Donjons & Dragons 5e édition, la gamme a commencé je pense fin été 2014 ou dans l'automne. Maintenant, c'est plusieurs livres de sortie. On peut commencer un peu par regarder à quoi ressemblaient l'historique de Donjons. On va pas passer en entier là-dessus parce qu'on pourrait faire un podcast au complet sur l'historique de Donjons, presque. Mais bref, au début, Philippe, tu m'apprendras, je pense que c'est toi qui connais plus les vieilles éditions que moi. En tout cas, une des premières, c'était Basic Dungeons & Dragons.
Ouais,
c'est plus Advanced Dungeons and Dragons.
Non, ça c'est
Advanced, c'est arrivé par après.
Ouais.
C'est...
OK.
Mais c'est ça, Donjons & Dragons au début, c'était vraiment des règles plutôt simples. Ce qui a changé par la suite avec la 2e édition qui était assez compliquée, qui voulait vraiment un peu simuler tous les aspects puis qui avait 40 000 règles. Ils ont essayé de faire un peu un compromis entre les deux avec la 3e. La 3e / 3.5, qui est probablement une des éditions qui est le plus jouée encore en ce moment. La 2e, je sais qu'elle est pas mal jouée aussi. Mais... 3.5, moi, personnellement, c'est celle que j'ai jouée le plus. Évidemment, comme la plupart des éditions de Donjons, sauf peut-être la première, un gros focus sur le combat. Il y avait aussi le principe de don que les personnages gagnaient à intervalles réguliers de niveau, puis des classes de prestige, etc. Ensuite, ils ont essayé de encore plus rendre ça accessible avec la 4e édition, que toi, Marc, je pense que t'as joué quand même pas mal.
Ouais, c'est l'édition avec laquelle je suis le plus familier.
Ça. Moi, j'ai joué une fois au chalet.
En fait, la 4, c'est un peu ce que le monde avait peur que la 3 soit quand Wizard a acheté TSR, parce que c'est ce qu'il avait annoncé qu'il allait faire. Ça, c'était une version de donjon avec des cartes que t'allais qui allait comme mixer Magic puis Donjons et Dragons. C'était pas mal la rumeur qu'il y avait à l'époque. Puis fait que quand la 4 est arrivée, on a fait comme oh, c'est pas mal ce qu'il voulait faire finalement, puis que ça avait chialé. C'est pour ça que la 3 avait été plus différente que le monde s'attendait. Mm-hmm. Parce que ça avait vraiment beaucoup chialé à l'époque, si je me souviens bien.
Ils ont comme un peu propulsé Donjons & Dragons au niveau un peu plus des jeux de société avec la 4e édition. Ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, mais Donjons & Dragons étant la gamme phare des jeux de rôle, ça a pas plu à la majorité des gens. Et moi le premier, j'ai pas trippé tant que ça sur la quatrième.
Moi ça a été le contraire total. Moi je suis passé de 3.5 à la crate, puis j'étais comme « Ah mon Dieu, quel vent de fraîcheur! »
Moi j'ai joué longtemps, là, c'est ça, à la 3.5. Évidemment, je connaissais pas d'autres jeux de rôle, fait que pour moi c'était comme le jeu de rôle par excellence, mais comme je le dis souvent maintenant, la 3.5, j'aurais bien de la misère à retourner y jouer. Disons que je ferais beaucoup de faces de gars qui apprécient pas ce qui se passe. Puis bon, on a eu la cinquième qui était au départ D&D Next quand elle était en bêta.
Ouais.
Les gens s'inquiétaient pas mal. Finalement, ils ont essayé justement de revenir un peu à leur base, en s'inspirant beaucoup de la 3.5, à mon avis, du moins, à ce que je peux en voir. Ils ont pris beaucoup aussi d'idées dans les jeux indépendants. On a fait un podcast sur Dungeon World, justement. Ils ont emprunté un peu quelques petites choses à des jeux comme Dungeon World ou Apocalypse World, etc. Ça a donné, à mon avis, probablement... J'ai jamais vraiment lu la première édition. J'ai joué un peu à Advance, mais je m'en souviens pas tellement. Mais bref, pour moi, c'est l'édition que je préfère de Donjons & Dragons. Elle est pas parfaite, mais elle donne un focus plus grand au niveau de l'histoire puis de la narration, tout en gardant un bon focus sur les combats, parce que c'est ça que les gens aussi apprécient, ceux qui jouent à Donjons & Dragons. On va un peu regarder les différences et qu'est-ce qu'il y en a. Évidemment, on a les premiers chapitres du livre, c'est les classiques races-classes. On a les Dragonborn dans les races qui sont arrivés, je pense, avec la quatrième édition, si je me trompe pas, Marc.
Je crois qu'il était là dans la 3.5, mais seulement sous forme de NPC.
Ouais, non, de PNJ. Mais je parle, c'est ça, en tant que race de base dans le livre des joueurs, il était dans la quatrième édition.
C'était dans le premier livre, le premier Player's Handbook, si je me souviens bien, de Dragonborn.
Je sais
qu'il était... Ou le Drakeid, comme on dit en français. Je sais.
Parce que je sais qu'il était pas là, justement, dans la 3.5. Ouais. Ils ont rajouté aussi les Tieflings. Les Tieflings, qui en français, c'est quoi?
C'est un Tieflin, d'après ce que j'ai pu voir.
Mmh.
Ben ouais, ouais, c'est ça. Toutes les lins, c'est ça, les lignes, les choses sont aussi des lins en français pour vraiment les traductions traditionnelles.
Comme un halfling, c'est un halfling.
C'est halfling, ouais, c'est ça. C'est vraiment la traduction traditionnelle.
Les halflings qui avant étaient les hobbits, mais ils ont été obligés de changer.
Non, pour
vrai. À cause des trademarks.
Le trademark était déjà pris. Non, c'est pas ça.
C'est pas vrai. En fait, halfling puis hobbit et tout ça, c'était en fait selon les univers, ils portaient pas le même nom. Même dans Donjon, cette race-là a des noms différents selon les univers.
On s'entend que c'est la même affaire, là.
C'est à peu près la... Non, il y a des petites différences. Ils ont pas les mêmes courbes de grandeur. Puis des choses comme ça, mais...
Il y a déjà eu aussi, je me souviens plus, c'est-tu les Kender, ça se peut-tu?
Les Kender, ça c'est dans Dragonlance.
Qui sont des espèces de hobbits joueurs de tour. Des halflings joueurs de tour.
Ils sont un peu plus petits, ils ressemblent plus à des enfants encore. Effectivement, il est considéré comme une sous-catégorie là des halflings, puis les hobbits, ça c'est aussi comme une sous-race, si tu veux.
Sinon dans le reste des races, c'est les races classiques: elfes, demi-elfes, humains, nains. Y a-tu gnome, sûrement?
Oui,
gnome puis demi-orc.
Half-orc, ouais, demi-orc.
Est-ce qu'il y avait plus de races dans le quatrième édition, dans les races de base? Je te le demande parce que... Est-ce qu'il y avait les Aasimar dans la quatrième édition?
Pas dans les races de base, non.
Okay.
Au départ, c'était pas mal ce qu'il y avait, là. Je pense qu'il y avait même pas de demi-orc dans le premier... dans le premier Players and faudrait que je revérifie.
Ouais, parce qu'ils avaient dans 3.5, fait que ça m'étonnerait peut-être un peu, mais c'est pas impossible.
Mais non, mais il les a eu, je pense, dans le deuxième Players and Book des Half-Orc, là. Je dis ça de même, là, mais faudrait que je regarde, là. Mais comme on parle de la 5, j'ai pas sorti les livres de la 4.
Sinon, au niveau des races, y a pas tant de changements vraiment. Ils ont changé le principe de malus bonus pour que, si je me trompe pas maintenant, les races gagnent seulement des bonus. Ça donne un aspect un petit peu plus positif au choix de la race, là. Tu y vas pas selon ce que tu veux pas perdre, mais tu y vas selon ce que tu gagnes, tout simplement.
Mm-hmm. Ouais, bah, c'est ça que ça arrive, hein.
Mm-hmm. Sinon, au niveau des classes, on a encore les mêmes classes à peu près que dans 3.5 et probablement aussi 4e. Avec l'apparition du Warlock, est-ce qu'il l'avait pas?
Il était dans le 4,
le Warlock?
Oui. Okay. Oh, oui.
C'est ça. Il est apparu avec la 4e édition. Ça veut dire, parce qu'il était pas dans 3.5.
Je te confirme, j'ai toujours été mêlé sur la différence entre un Sorcerer, un Warlock et un Wizard. Et je suis certain que pour tous les néophytes qui nous écoutent, ils savent pas trop c'est quoi la différence entre les trois. C'est pareil.
Le Mage apprend ses sorts. Le Sorcerer a ses sorts de façon innée. C'est comme dans son sang. Et le Warlock, lui, c'est un pacte avec une entité qui lui donne ses sorts.
Yes.
Et voilà la différence entre les trois.
Voilà.
Moi, pour vrai, avant de lire la 5e, je savais même pas que les Warlocks existaient dans la 4e, tu vois. Puis, pour vrai, ouais, étant un fan de magie, j'aime vraiment la classe. Une belle découverte pour moi.
Le Warlock?
Ouais.
Très intéressant, même en demi-classe, là. Si vous voulez jouer un half Warlock, half Thief, très 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 intéressant, particulièrement au niveau du background puis de comment vous jouez votre personnage.
Maintenant que j'y pense, une bonne différence au niveau des races aussi. Les elfes ont été un peu streamlinés dans le sens que je sais pas comment dire en français, ils ont été un petit peu disons qu'ils ont changé pour que ce soit plus simple, que maintenant que tu joues un drow, un elfe des bois, un haut elfe, peu importe, t'auras aucune différence à part ta couleur de peau. Ben, à part, tu sais, le reste qui va avec aussi, la culture, la mentalité, etc.
Ben, ils ont quand même des...
Ils ont des bonus différents.
Des bonus différents, par exemple, les high elves, c'est l'intelligence, tandis que les wood elves, c'est le wisdom.
Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est ça, mais je parle... Ça, c'est comme si tu voulais jouer un draw dans 3.5, t'étais automatiquement plus puissant que n'importe quel elf, parce que tu commençais avec des poisons, des affaires de même, tu sais. Maintenant, ils ont rendu ça un petit peu plus accessible.
Ben. Balancé,
plutôt.
Ouais.
En fait, toutes les races sont un peu plus balancées dans un sens.
Une grosse différence pour les classes également, c'est que peu importe la classe que vous allez choisir, quand vous atteignez le niveau 3, si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Quand vous atteignez le niveau 3, vous choisissez un chemin à prendre. La part des classes ont comme deux voies. Puis c'est comme un... C'est... Comment dire? C'est un peu là comme des classes de prestige, en quelque sorte. Dans le fond, ça... Ça précise un peu la direction que votre personnage va prendre.
C'est des styles que tu rajoutes un peu à ton personnage ou des choses qui rendent que ton personnage est... tous les fighters sont pas exactement pareils, tous les magiciens sont pas exactement pareils. Si mm-hmm.
Par exemple, j'ai le barbare devant moi, puis c'est ça que j'ai joué aussi quand j'ai joué à 5e édition.
Mm-hmm.
Quand tu atteins niveau 3, tu choisis soit le Path of the Berserker, qui évidemment va être plus concentré sur faire des gros dommages puis frapper comme un mongol.
Ah, c'est ça que ça veut dire, Berserker. Okay.
Puis l'autre, c'est le Path of the Totem Warrior, qui est plus un
chaman.
Un espèce de barbare en lien avec la nature. Tu choisis un spirit animal, puis tu vas avoir des pouvoirs différents en fonction de ton spirit animal. Si tu choisis, par exemple, l'aigle, ça va être souvent plus des affaires d'agilité. Supposons l'ours, ça va être plus des affaires de force ou de résistance. Sinon, t'as le loup. Le loup, c'est genre de la chasse, carrément. Fait que c'est je trouve ça quand même intéressant. Ça donne un petit peu une espèce de customisation différente. Ça fait penser un peu à un arbre d'évolution là dans les jeux vidéo, des choses comme ça.
Ça doit aider également au niveau du roleplay de ton personnage, non?
Oui. Ça peut aider de deux manières. Soit selon le background ou le roleplay que tu fais, ben tu vas dire, OK, ben, cette voix-là est fit plus avec mon personnage. Ou ben tu vas justement changer ton roleplay en fonction de la voix que tu choisis. Si au niveau 3, tu choisis d'avoir un totem, un esprit, etc. avec un barbare, ben tu vas essayer de le faire en jeu, tu sais, pourquoi, comment t'as eu ton totem, etc. Ça donne des bonnes pistes non seulement aux joueurs, mais aussi aux maîtres de jeu. Ça je trouve que ça peut être intéressant, par exemple, un maître de jeu, quand à peu près tous ses joueurs atteignent le niveau 3, ben tu fais un peu des petites quêtes personnelles à chacun, genre que ou des quêtes centrées justement sur comment ils obtiennent ces pouvoirs-là ou le changement dans la voix du personnage. Sinon, un chapitre que j'adore, ils ont fait un chapitre pour la personnalité et background des personnages.
Oui.
Dans le fond, maintenant, ce que les joueurs peuvent faire, c'est choisir un background. Qu'est-ce que leur personnage faisait avant de devenir aventurier? Ce background-là va donner accès à différents bonus de compétences, si je me trompe pas. Ouais, il donne ce qu'on appelle des proficiencies ou des maîtrises en français. Des maîtrises de certaines compétences, de certaines armes, langages, etc. Ça peut même des fois donner, je pense, des équipements de départ. Donc, un aspect nouveau et intéressant. Aussi, ils vont demander de trouver un idéal au personnage, de trouver un trait de personnalité et de trouver un défaut au personnage. Et ça va être noté sur la fiche. Quelque chose qui est, encore une fois, super à mon avis, surtout si le maître de jeu les prend en note pour avoir accès à ça, parce que c'est une des choses les plus intéressantes pour moi, du moins dans les jeux de rôle, quand un maître de jeu pousse les joueurs dans des espèces de dilemmes en justement mettant des situations qui les poussent à aller contre leur idéal ou qui exploitent leurs faiblesses ou même qui mettent des situations qui mettent de l'avant leurs qualités, tu sais. Fait que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis ça permet aux joueurs de plus facilement faire du roleplay parce d'avoir plus facilement leur personnage en tête. T'as juste à avoir ces trois choses-là. Pis t'es pas obligé d'avoir un background de 10 pages. Si t'as ces trois choses-là, normalement, oui, tu sauras pas tout le passé de ton personnage. Je continue à dire, c'est quelque chose qui peut être bâti à mesure, mais tu vas avoir les bases du moins pour le jouer, t'sais.
Mais c'est quelque chose que je reconnais qu'il y avait pas ni dans la quatrième édition, ni dans 3.5. C'est justement des espèces de règles pour aider les gens à faire du roleplay. On dirait qu'avec la 4, c'était comme si c'était, bon, ben les gens savent déjà qu'ils vont faire du roleplay. On va mettre des règles seulement pour le combat.
Mm-hmm. Parce que c'est quelque chose d'important en design, surtout qu'on le voit plus dans les designs modernes, que si tu veux justement qu'il y ait un bon focus sur le roleplay dans ta game, c'est pas la tâche seulement du maître de jeu et des joueurs de le faire. Il faut que tes règles l'encouragent aussi. Tout ce que tu veux voir dans ton jeu, faut que tes règles l'encouragent d'une manière ou d'une autre, normalement. Ou du moins, c'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Sinon, en tant que tel, les règles de jeu, qui sont à peu près tout le reste du livre, là, évidemment, il y a les sorts, etc. Il y a pas non plus de setting. Maintenant, toutefois, si je me trompe pas, à la base, donc le setting officiel de Donjons s'est rendu les Royaumes Oubliés ou Forgotten Realms.
Ouais.
C'est vraiment le setting de base, fait que... Puis, on en a déjà parlé un peu, maintenant, ce qui sort, Dieu merci, ils font pas comme la 3, 4e et autres éditions avant, ils sortent pas 40 000 livres de suppléments à gauche et à droite, pour le moment.
Mais pour le moment, c'est ce qu'il faut dire.
Ils sont pas supposés le faire. Ils ont dit qu'ils le feraient pas. Je leur fais confiance.
Ouais, mais tu sais, en même temps, si tu regardes dans 3.5, une grosse partie des milliers de suppléments, en plus de ceux de... Il y avait d'autres compagnies qui en faisaient, fait que ça remplirait les choses.
Ouais, mais tu sais, j'ai beaucoup de livres de 3e édition, puis c'est tous des suppléments officiels. Mais c'est ça. Dans le fond, ce qui sort, c'est des campagnes, des aventures, à la limite, des livres de setting, peut-être. Des choses comme ça. Fait qu'ils sortiront pas ils sortent des petits produits dérivés aussi, comme ils ont sorti fait acheter des packs de cartes de sorts. C'est vraiment utile pour vrai en jeu. Genre un pack de sorts arcaniques, t'as tous les sorts arcaniques en cartes dans le paquet. Fait que tu donnes, le joueur se prend juste les cartes des sorts qu'il a. Fait que, à place d'être obligé de tout le temps checker dans le livre ou des noter sur sa fiche, il y a les cartes. Fait que, il sait automatiquement c'est quoi les effets, la distance, etc. Puis si c'est un mage, ben, quand il l'oublie, quand il a fait ses utilisations de sort, il peut le mettre de côté, t'sais. Des choses comme ça. Fait que ces petites cartes-là, c'est des petits outils bien, bien utiles, à mon avis.
Ben, il y en avait dans la 4e édition des cartes comme ça.
Oui. Oui, je m'en souviens qu'il y en avait aussi.
En fait, il y en avait pour pas seulement les mages, il y en avait pour toutes les classes.
Il y a quand même des bonnes idées qu'il y avait dans la 4e édition. Puis, comment le pas de temps était joué par le trois quarts du monde, ben, ils ont ramené, tu sais. En même temps, c'est ça qu'il faut que tu fasses, là. Quand tu fais une nouvelle chose, par exemple, eux, quand ils font une nouvelle édition, c'était pas juste du négatif, la 4e. Fait qu'il faut quand même qu'ils gardent le positif qu'ils ont fait de ça, puis qu'ils le transportent dans la nouvelle édition, puis je pense qu'ils l'ont bien fait, d'ailleurs. Évidemment, les règles ont été simplifiées énormément, tout simplement par le système d'avantages et désavantages. Oubliez les malus et bonus de plus 1, plus 2, plus 3, plus 8, plus 9.75, j'exagère. C'est encore les mêmes difficultés, là, sur les dés. Mais sinon, c'est ça. C'est au lieu d'avoir des bonus puis des malus, vos personnages vont se retrouver dans des situations d'avantage ou désavantage. Si vous considérez qu'un personnage est en situation de désavantage, tu roules 2d20, tu prends le plus bas. Situation d'avantage, contraire, tu roules 2d20, tu prends le plus haut. Et voilà, that's it, that's all. Pour moi, il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui aiment plus être précis, genre, par exemple, telle situation, ça serait un plus 5, mais telle autre, ça serait un plus 3, des choses comme ça. Moi, pour vrai, je m'en fous. Fait que, j'aime mieux ça. Ça le mérite d'être clair, d'être toujours la même chose. Surtout pour des maîtres de jeu, par exemple, moins expérimentés, être toujours obligé de se demander, ça serait un plus quoi dans ce cas-là? Ben, à la place, il se dit juste, ah, c'est un avantage, c'est bon, let's go, brasse 2D, prends le meilleur. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ce changement-là, là.
Je suis un peu indifférent, je suis pas contre ni pour.
C'est un truc que j'ai vu dans d'autres jeux. Je te dirais que, dépendant des jeux, ça marche bien. D'autres fois, ça donne trop de... C'est trop fort, là.
Ben, ça peut être trop fort, mais comme les désavantages peuvent être... C'est quand même... C'est 2d20, fait que...
C'est ça.
T'sais, tu peux pogner un... Si t'es... Tu peux être vraiment malchanceux, puis être en désavantage, pogner un 20, puis un 1.
Uh-huh.
Comme tu peux être en désavantage, puis pogner genre 17 et 18,
t'sais. Oh oui.
Fait que, au final, moi, je trouve ça bien. C'est sûr, ça rajoute... peut-être un petit peu plus de randomness, d'hasard, mais c'est pas négatif, à mon avis. Il y a un peu moins de règles, je trouve, que dans, par exemple, la 3.5, parce que c'est l'édition que j'ai le plus en tête. Étonnamment, j'ai regardé le nombre de pages dans les deux manuels, puis en ont à peu près autant, à genre 10 pages de différence. Fait que, même si ça a l'air simplifié, toutefois, pour avoir comparé les deux, la troisième édition a à peu près autant de pages, mais l'écriture est beaucoup plus petite, puis il y a beaucoup moins d'images qui prennent de la place. Fait qu'au final, je pense qu'il y aurait quand même une petite différence. Pas grosse différence au niveau de l'équipement, je pense pas, en tout cas. Les armes restent un peu le même principe, là. Ils ont des affaires spéciales, genre ils peuvent être lourdes, versatiles, à deux mains, à une main, ils peuvent se lancer avec des dommages qui sont déterminés par le nombre de dés et le type de dés.
Mais ça, je pense qu'il y avait ça dans la 3.5 puis dans la 4.
Moi, non, c'est ça. C'est ça que je dis. Je pense que ça a juste jamais changé à ce niveau-là. Si je me trompe pas, je pense qu'ils ont changé la monnaie. Je vais essayer de le retrouver.
Ah bon?
Ouais, la monnaie, maintenant, t'as des pièces de cuivre. Ça, comme toujours, des pièces d'argent. Des pièces d'électrum, des pièces d'or et des pièces de platine. Je sais pas si c'est les mêmes qu'avant.
Il y a les Electrum, il me semble.
Ouais, Electrum, je pense que c'est nouveau. Electrum, c'est...
Electrum, il y en avait dans les dans la version 2.
OK.
Bon, ben, OK.
C'est 5 pièces d'argent c'est une demi-pièce d'or.
Hein? OK. Mais à l'époque, c'était en fait 5 pièces d'or, si je me souviens bien.
Non, c'est ça. C'est plus petit que les pièces d'or. Là.
Ah, maintenant, c'est les Electrum. Ouais. OK. Ouais, ben, c'est... Je pense que c'est plus logique parce que si je me souviens bien, l'électrum c'est un mélange d'argent et de d'or là, mais
l'argent de départ des personnages est déterminé par la classe. Si je me souviens bien, dans la troisième édition, c'était pareil pour tout le monde. C'était genre 4 des 10 x 10 ou quelque chose comme ça. Sinon, en flippant les pages.
Comme ça, dans la quatrième édition, tu partais avec 100 pièces d'or.
Tout le monde.
Tu faisais tes achats, peu importe ce que t'étais. Là.
OK.
Il me semble. Ouais, je vais y revoir. Là, mais...
Un petit ajout que je trouve super intéressant dans le chapitre des équipements, ils ont mis les trinkets, qui sont un petit objet anodin roulé au hasard avec lequel ton personnage peut commencer. Ils en ont mis 100. Dans le fond, tu roules là-dessus, puis... un exemple, un œuf d'une livre avec une écaille rouge brillante, genre. Ou sinon, un disque en pierre multicolore. Toutes des petites choses comme ça, qui ont pas tellement rapport en tant que tel, mais ça permet, un, ça peut s'intégrer facilement à un background, puis deux, ça c'est des beaux objets à être exploités par un maître de jeu.
Évidemment.
Oui, c'est moi j'adore ça, des petits objets de même. C'est justement Numenera avait un peu un principe similaire, puis autant que des objets que je laissais à être anodins, autant qu'au final il y en a qui finissaient par avoir une certaine importance.
Mais ils disent là-dedans faut que tu roules un dé de 100, mais moi c'est le genre d'affaire que je permettrais à un joueur qui me disait je voudrais avoir un trinket précis. Moi, j'y permettrais de l'avoir. Là. Je fuck le dessin, fuck le hasard. Là. Tu penses que ça va aider au background de ton personnage, là, je te le laisserai avoir.
Mais moi, j'aime ça pour vrai rouler ces choses-là au hasard. Parce que ça te permet de prendre des directions que t'aurais peut-être pas pris normalement avec ton personnage.
Aussi, ouais. Ouais, ouais.
C'est pour ça que j'aime un peu. J'avoue. J'aime les tableaux. Au final, j'aime ça quand il y a des tableaux pis les choses sont roulées au hasard dessus. J'aurais peut-être pas à Fatal que c'est juste des tableaux. Mais bon.
Ben non, voyons, bonjour, il y a Fatal.
Mais c'est plein de... Il y en a... Par exemple, il y en a un, c'est un fan dans le sens... un éventail que quand tu le déplies, c'est une image de chat qui dort. C'est peut-être moins cool qu'avoir un œuf rouge brillant, mais ça peut avoir une certaine importance. On sait jamais. Il est peut-être magique.
Ça, c'est bon d'avoir de ce genre de petit objet-là. Après ça, tu peux t'amuser à mettre un peu d'historique dans ces objets-là. Ça donne OK, j'ai cet objet-là. Pas des choses qui servent vraiment à l'aventure, mais en même temps, ça te permet de créer un background, tu sais. Souvent, dans ton background, le monde, ils mettent des histoires, mais qu'est-ce que pour un humain est souvent les souvenirs? T'as tes souvenirs dans ta tête, mais souvent, tu gardes des objets, puis souvent, c'est ça comme ils disent, des trinkets, là. Mm-hmm. C'est des objets qui vont te rappeler des souvenirs. Fait que quand tu tires ces objets-là, ça te fait une liste d'objets que tu vas dire, ah oui, cet objet-là, je l'ai eu quand on est parti en vacances à tel endroit, ou ça m'a été donné par ma grand-mère que j'aimais beaucoup, puis blablabla.
Surtout que les joueurs sont des aventuriers, ils laissent tout derrière eux, fait que normalement, instinctivement, la part du temps, t'amènes un souvenir, t'amènes quelque chose. Mm-hmm. L'objet peut être la raison pour laquelle t'es parti à l'aventure.
Aussi, c'est ça. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant comme idée d'avoir des objets qui vont te servir à un historique, là, t'sais.
Puis on s'entend qu'ils l'ont ajouté à la cinquième édition, mais c'est quelque chose que n'importe qui peut faire dans n'importe quel jeu de rôle.
Ouais.
Ça se transpose super facilement.
Mm-hmm.
À vrai dire, je suis en train de me dire, ouais, je devrais le faire dans à peu près tous les jeux que je fais, juste parce que c'est super intéressant comme principe.
J'aime beaucoup l'idée.
Ils ont un chapitre aussi consacré complètement aux options de customisation, dans le fond, que t'as toujours le choix soit de mettre ou non, à la discrétion des maîtres de jeu, évidemment. T'as le multiclassage qui est encore présent. Je pense pas qu'il est très différent de la troisième ou quatrième édition. Je sais pas si la quatrième édition était différente de la troisième, à vrai dire, mais bon.
Je pense que dans la quatrième édition, la différence, c'est que tu partais avec deux classes. Tandis que là-dedans, d'après ce que je peux voir, tu pars avec deux classes. Il me semble, mais dans la cinquième, il me semble, c'est que t'obtiens ta multiclasse à un autre niveau que le premier niveau.
Dans le fond, dans cinquième, tu fais juste choisir, tu montes de niveau en quoi, à chaque fois.
Il me semble que, en tout cas, dans deux, il y avait deux façons de faire ton multiclasse. Au départ, soit tu choisissais d'être multiclassé, ce qui veut dire que tu mettais la moitié de tes XP dans chacune des classes, puis ils montaient comme séparément, des choses comme ça. Sinon, tu partais, par exemple, guerrier, puis là, tu voulais devenir magicien. Ben, tu redevenais comme un niveau 1, jusqu'à temps que t'arrives au même niveau que t'avais pour être guerrier. Fait que c'est un autre genre de patte de travail. Sauf que t'avais certaines affaires que t'avais augmentées, sauf que il y avait beaucoup d'affaires que tu pouvais plus utiliser. Puis il me semble que dans la 3, c'était quelque chose aussi dans le genre que t'avais.
Ouais, dans le 3, je m'en souviens pas trop. Je pense que ça ressemble un peu à 5e, mais tu gagnais genre justement la moitié de l'XP ou je sais plus trop.
Ouais, c'est ça, mais ça. Dans 3, j'ai jamais joué multiclassé. On a juste joué avec les prestiges, fait que je me souviens plus.
Dans le fond. C'est ça, la cinquième, tu choisis tout simplement, tu montes de level, dans quelle classe quand tu montes de level, c'est tout. Ils ont mis aussi des prérequis pour les classes. Fait que genre, si tu veux monter de level en barbare pis c'est pas ta première classe, ben il te faut au moins 13 de force.
Ah ben ça, il y avait ça dans la 4 aussi.
Il y avait ça dans la 4 aussi.
Je pense qu'il y avait ça dans 3.5 aussi. Je pense.
Puis dans le fond... les points d'expérience, etc., où le level global de ton personnage est toujours basé sur l'addition de tous tes niveaux de classes différentes. Fait que ça ressemble pas mal à ça, à ce niveau-là. Dans les autres options, il y a les dons, évidemment. Les dons, dans le fond, sont rendus une option à la place d'un bonus de caractéristiques. Je pense à tous les 4 niveaux où je me souviens plus. Je sais pas comment dans le 5e, Mais bref, quand tu montes des niveaux, tu peux augmenter de 1 une de tes caractéristiques. À la place, tu peux décider de pas prendre ce plus 1-là, puis de choisir un don. La liste des dons est beaucoup moins grande que dans la troisième édition.
C'est-tu les feats, les ouais. dons? OK.
Il y en a pas tant que ça. Ça tient sur 4-5 pages, dont une page avec une grosse image. Fait que...
Ouais, je me souviens de la 3.5. Même la 4, il y en avait une.
Ah non, la 3.5, c'était affreux, là, le tableau des dons. Il y en avait, là-dedans. Là.
Il y en avait beaucoup, puis pas juste ça. C'est parce que t'as eu des livres d'extension complètes juste sur les dons.
Ouais, mais tu sais, j'ai les livres de spécialisation martiale, là, où est-ce que c'est juste plein de nouveaux dons puis des classes de prestige.
C'est ça. C'est débile, là.
Donc c'est ça, il y a pas trop de dons puis la plupart sont intéressants là, il y en a pas qui semblent trop inutiles à première vue. Les dons classiques genre double arme là,
wielder.
Ouais, c'est ça. J'essaie de le traduire en français puis ça a pas tant marché mon affaire. Tu peux être un healer, grappler, un linguiste, tu peux être chanceux, un attaquant sauvage, de que c'est. Ah, tu peux rerouler tes dommages d'attaque au corps à corps. Assez intéressant. Donc, sur les règles, il y a pas eu... Je trouve pas, à part que les règles sont plus simples, plus accessibles, si je me souviens bien, il y a pas trop de changements. Ça très proche de la 3.5, probablement proche de la quatrième, parce qu'au final, la quatrième, ce qui était très différent, c'est les espèces d'habilités de personnages qui marchaient un peu comme des MMORPG, des RPG tactiques.
Ouais, ouais.
T'avais l'impression un petit aspect jeu vidéo.
Chacune des classes avait leur propre sort ou leur aptitude.
Mm-hmm. Il y a une partie consacrée au roleplay, comment faire du bon roleplay, avoir une approche active ou descriptive. Il parle que les deux sont bonnes, ce que j'aime, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui va jouer, qui vont faire leur roleplay en interprétant leur personnage avec la voix, puis en étant dans la peau de le personnage. Il y a des gens qui sont plus gênés, un petit peu plus à l'écart.
Il y a des gens aussi qu'au lieu d'interpréter leur personnage, ils vont simplement dire qu'est-ce que leur personnage fait.
Ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils appellent par du roleplay descriptif.
Ouais.
C'est tu vas faire ce que ton personnage ferait. Tout simplement.
C'est pas mauvais non plus.
Pour moi, c'est aussi bon. Parce que oui, il y a des joueurs qui prennent de la place. Pis c'est le fun, les joueurs qui sont dans leur personnage pis tout.
Des grands gueules aussi.
C'est ça. Mais on peut pas demander à tout le monde de faire ça.
Non.
Tu peux pas forcer quelqu'un à faire une façon de roleplay qui est pas la sienne, qui est pas à l'aise dedans. Ce que tu veux au final, c'est que la personne agisse comme son personnage et non comme lui.
Ben, il y a aussi bien souvent des gens qui vont jouer des personnages qui sont pas nécessairement muets, mais plus timides, plus réservés. Donc, c'est beaucoup mieux de décrire ce qu'ils vont faire, parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'ils vont dire, mais c'est une action qu'ils vont faire.
Mm-hmm. Oui. Puis d'ailleurs, il y a un nouveau système également dans cinquième édition qui est l'inspiration. L'inspiration, c'est dans le fond des points que le maître de jeu peut accorder aux joueurs qui font du bon roleplay. Ces points-là, faut que je le retrouve, peuvent être dépensés, si je me souviens bien, pour quelques utilisations différentes, comme par exemple, je pense rerouler des dés ou des choses comme ça. J'essaye de le trouver, puis je le trouve pas, mais bon, dès que je l'ai, j'en toucherai un mot. Sinon, les combats...
Ça me rappelle quelque chose, moi aussi, il me semble que c'est ça.
Les combats sont pas tant différents non plus. Beaucoup moins de règles de combat. Dans le sens où, encore une fois, ça va souvent se résumer à avantages ou désavantages. Les combats encouragent, encore une fois, de la manière que les règles sont écrites grandement, de jouer avec des figurines sur un plateau de jeu, sur une battle map, comme on appelle.
Mais vous êtes pas obligé de le faire avec la 5e.
Non, c'est pas... Ben, même avec la 3, même avec la 4, t'étais pas obligé, mais...
T'es pas obligé, mais c'était vraiment pas recommandé, tandis que dans la 5... Tu peux juste jouer avec une méthode narrative en disant « Vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? »
Mais c'est comme je dis,
c'est comme la,
les règles encouragent pareil à le faire. Avec.
Ça revient un peu comme la 2. Tu sais, je dis, les règles avant étaient pas vraiment pour avoir des figurines sur le plateau dans la 2, mais en même temps, t'avais des... c'est comme pour bien visualiser où est-ce que tes personnages étaient placés, parce que t'avais quand même de la tactique un peu, ben t'avais quasiment pas le choix. Puis dans la troisième, oui, tu pouvais le faire sans plateau, mais la même affaire, il y avait tellement de règles de combat tactique.
Que... Mais tu sais, c'est comme juste le principe d'attaque d'opportunité dans la troisième. C'est ben, genre ça devient tellement arbitraire si tu joues pas sur un plateau de jeu, là. Parce que c'est moi, ça. Je jouais pas avec une battle map. Fait que les attaques d'opportunité, c'est comme... Bon, est-ce que je décide qu'il y a une attaque d'opportunité parce que tu passes à côté?
Mais t'as besoin de savoir où est-ce qu'il est dans le sur la map pour justement pouvoir
c'est
établir... C'est
toujours possible de prendre
des
petites visualisations avec juste une feuille de papier puis mettre à peu près les personnes sont...
Ouais, mais c'est la même affaire, tu sais, je veux dire...
Ouais, non, ça...
Toutes les règles de vue... Si la personne te voit bien, elle peut tirer dessus. Si toutes ces affaires-là amènent qu'un battle map est quand même intéressant pour ça. T'sais.
Mais ça a quand même été une révélation pour moi quand j'ai fait ma partie de 5e édition. Je pense que c'était une des premières fois que je jouais sur une battle map. Puis j'ai réalisé que, en tant que tel, Donjon Dragon, les combats, je préfère les faire sur une battle map. Parce que j'ai l'impression, justement, qu'ils ont été construits pour ça. Ça fait que si je veux jouer vraiment plus roleplay tout le temps, puis me concentrer sur comme l'avance, à faire avancer l'histoire puis la narration, ben je jouerai pas à Donjon Dragon. J'aime le feeling quand même des combats de Donjon Dragon. C'est juste que c'est ça. Pour moi, c'est pas l'aspect que je recherche, fait que je vais rechercher d'autres jeux.
Même dans la 5e édition?
Même dans la 5e, je trouve pas que les combats sont pas vraiment moins longs. Sont plus meurtriers, par exemple. Fait que faites attention à vos joueurs. Ben, un peu comme dans 3e, là. Dans 3e, les combats étaient assez meurtriers aussi. Mais je pense que juste, si je me souviens bien du manuel des monstres de la 5e édition, les kobolds font vraiment mal maintenant, tu sais.
What?
Ils font genre au moins un des quatre, puis pas de malus. Fait que les ennemis sont un petit peu plus dangereux.
Ben c'est pas le plus petit dé ça de dégâts un des quatre.
Ouais mais genre c'était, je pense qu'à 3e édition c'était genre un des trois moins un.
Ouais.
Ah ok. Il me semble que dans la 4e édition c'était, ben ça dépendait de quelle arme. Qu'il
ouais, mais dans la 4e édition t'avais les l'affaire que jaillit des Healing Surge.
T'as eu ça sur toi? OK.
Ah, oh, ça a aucun sens au niveau du roleplay. Ça a juste l'air d'une espèce de principe de jeu vidéo. J'aimais pas ça.
Ah, ben moi, j'ai déjà fait des nains, puis c'était bien intéressant d'avoir ton Healing Surge quand tu voulais.
Mais c'est intéressant à un niveau combat tactique, mais c'est pas intéressant à un niveau roleplay, si tu veux.
Ça n'apportait pas aucun intérêt niveau roleplay, donc.
C'est juste...
Non,
à part rester en vie.
J'ai bien de la misère. C'est quelque chose, c'est même dans les jeux de société, par exemple. J'ai de la misère avec des règles qui sont pas liées au thème. Qui sont pas liées au... Par exemple, dans un jeu de rôle, au roleplay en tant que tel. Si ta règle fit vraiment pas, c'est peut-être qu'il y a un problème à quelque part. Mais bon, c'est mon opinion, évidemment. Maintenant... si tu tombes, il y a plus de moins 10 pour mourir.
Ok. Ouais.
Dans le fond, tu tombes à zéro puis tu meurs si le reste des dommages que tu reçois dépasse tes points de vie totaux.
Dans le négatif, tu parles.
Ouais.
Ok.
C'est vrai que c'est Ça va être dans le fond, quand t'es rendu vraiment haut niveau, je pense que c'est plus dur d'achever.
Faut vraiment la personne s'acharne sur toi, là.
Ouais. C'est vraiment ça, je pense, ouais. Si ça égale ou ça dépasse tes points de vie maximum. Tout simplement.
OK.
T'as quand même des death saving throw. Fait que...
En plus.
C'est à chaque tour que tu commences à zéro, tu brasses un death saving throw.
Ah, OK, ouais.
Puis je pense que t'as comme, si je me souviens bien, t'as 3 ou 4 barres ou genre comme espace pour des succès ou des échecs. Puis si t'as plus de succès que d'échecs, tu survis. Si t'as plus d'échecs, tu meurs. Un 1 compte comme 2 échecs, un 20 compte comme 2 réussites.
OK, ça c'est une petite...
Fait que tu peux quand même mourir.
Par rapport à la 4.
Fait que même au niveau, tu peux mourir quand même assez vite si t'es malchanceux sur ce tir-là.
Ouais. Puis ça ressemble pas mal à ça pour la mort. Après, on rentre dans la magie. La magie qui est... qui a vraiment pas changé.
Moi, il y a une chose qui a changé que j'aime pas.
Quoi?
C'est que les sorts ne sont pas classés par classe, mais par ordre alphabétique.
Mais t'as accès quand même aux spells. T'as quand même la liste des spells par classe.
Oui, ouais. Mais c'est achalant au niveau de la création de personnages. Parce que tu peux pas vérifier... toute l'étendue des sorts disponibles.
Mais il me semble que c'était comme ça dans le troisième aussi.
Ce que tu,
peut-être que je me trompe, là.
Parce qu'il y a beaucoup de sorts. T'as une liste pour ta classe, puis après ça, tu prends cette liste, puis là, tu vas voir dans les sorts qu'est-ce que ça fait exactement. Mais, c'est parce que ça permet d'avoir beaucoup de sorts qui sont les mêmes pour plusieurs classes. Parce que là, au lieu de dire, comme par exemple, en 2, t'avais mettons, tes rangers rendus à un certain niveau, il y avait de la magie, un peu moins haut niveau de telle affaire. Les paladins avaient de la magie de prêtre, mais comme de beaucoup moins haut niveau. Tandis que là, c'est, OK, un paladin, ça a les mêmes sorts que les prêtres, sauf que certains sorts, qui est plus combat, parce que c'est un paladin, plus que ton prêtre, des choses comme ça. Fait que, ils ont pris des listes de sorts, puis là, ils ont fait, OK, lui a tous ces sorts-là. Puis, des fois, t'as des sorts qui sont dans 2 ou 3 classes. Fait que, si tu les avais par classe, ben là, il aurait fallu que tu copies 4 ou 5 fois, ou là, t'es dans ta classe, pis là, ah non, faut que j'aille un magicien, ah non, faut que j'aille... Ça serait un peu gossant. Tandis que là, si t'as juste ta liste avec une... T'sais, genre, c'est juste une ligne, après ça, tu vas dans les noms des sorts, c'est quand même pas pire, là, t'sais.
Pis au final, il aurait pas pu vraiment te lancer les sorts par classe parce qu'ils s'entremêlent tous.
Ouais, mais là, il l'avait fait pour la 4, puis je vais t'avouer que ça, j'aimais pas mal plus ça, parce que là, présentement...
Mais ça fait des sorts...
Ouais, mais je suis obligé toujours de revenir dans le livre pour là, tu retournes à l'autre place que les sorts. Non. Là, tu retournes à ta classe. Hey, c'est fatigant, calice.
L'affaire, c'est ça fait les sorts qui se répètent.
Ben oui, au pire, répète-les, ça fera plus de pages dans ton livre.
C'est du tétage.
Oui, c'est du tétage. C'est long pour rien. Je veux avoir la liste de mes crises de sorts que j'ai disponibles pour pouvoir voir quel sort j'aimerais avoir, puis c'est tout.
T'es pas un magicien patient.
Non, je sais. Mais c'est probablement le genre d'affaire qu'avec le temps, je vais m'habituer, mais ça je trouve que c'est une des choses qui ont mal fait pour la 5.
Moi, ça me dérange vraiment pas pour vrai. Je pense que j'aime mieux ça de même.
OK.
Ça me permet de savoir plus rapidement le sort que je veux aller chercher, etc. Un peu comme Philippe disait aussi. Sinon, il y a un appendice consacré... pas un appendice, genre dans le corps humain, mais dans le...
un appendice.
Dans le fond, il y a...
C'est le même mot, hein?
Un appendice. Une partie consacrée aux différentes conditions qu'un personnage peut être, paralysé, charmé, apeuré, saisi, incapacité, etc. Il donne aussi différents panthéons de Donjons Dragons. Fait que si ceux qui veulent avoir accès à des dieux, t'as toutes les divinités des royaumes oubliés, de Greyhawk, de Dragonlance, d'Eberron, et une liste de non-human deities. Fait que des dieux pas humains. Ouais, intéressant. J'avais jamais remarqué cette liste-là.
Ouais, parce que ça existe depuis très longtemps. C'est ça, souvent. Tu sais, tu joues un elfe, t'as une liste de dieux, par ça, tu te rends compte, tu pognais le livre des elfes, là, hey, c'est pas les mêmes dieux. Mais là, c'est pourquoi là, tu te rends compte que finalement, dans ton livre de Forgotten Realms, tous les dieux qu'ils mettaient, c'était les dieux humains.
Oui,
c'est un peu bizarre que, en tant qu'elfe, que je suis un dieu humain ou quelque chose, à moins que tu viennes d'une ville.
Si je suis en train d'en regarder quelques-uns, t'as même le dieu de la chasse, Sahuagin. Le dieu de la survie, homme lézard.
Oui, ben oui. Il y a plein de dieux comme ça. Ouais. T'avais aussi les dieux des beasts, t'as des dieux qui sont pour plusieurs races de monstres.
Dieu, il y en a un, c'est Scoraeus Stonebones. Dieu des géants de pierre et de l'or.
Ben, de l'or.
Je trouve c'est deux choses très étranges. Géant de pierre et l'or.
Ben, pourquoi il n'y aurait pas d'or chez les géants de pierre?
Mais non, mais instinctivement, c'est pas deux domaines que tu penses que le même dieu pourrait avoir.
Ouais. Mais est-ce que c'est de l'or pour les humains ou c'est de l'or chez les dieux?
J'imagine que c'est un dieu juste chez les hommes de pierre.
Ça, c'est un stéréotype que t'as chez les géants de pierre.
Ouais, excuse-moi, je suis plein de préjugés.
Espèce de raciste.
On fait-tu référence à notre dernier podcast?
Un peu.
Je vais aller écrire un article là-dessus sur Urbania pour me défouler.
Oh!
Oh man, c'est lourd ça!
C'est lourd! il donne même une liste des dieux classiques, celtiques, grecs, égyptiens, scandinaves.
Ouais, mais ça c'est normal. Puis même dans deux, il y a ça, ces dieux-là.
Ouais, dans la troisième édition, j'avais le livre consacré aux dieux et déesses, puis il y avait aussi une liste des différents dieux.
Dans le livre de la version 2 aussi. Ça a toujours été là parce qu'en réalité, tu vois, comme Greyhawk, c'est un monde, Dragonlance, c'est un monde, Forgotten Realms, c'est un monde, mais techniquement, la Terre est aussi un des mondes.
Mm-hmm.
Fait qu'en réalité, puis chaque monde a ses dieux. Tu sais.
Il y a aussi un appendice, justement, consacré, un peu à toutes les
plaines d'existence.
Les différentes plaines d'existence. Là. Avec un beau graphique, vraiment beau, que tu vois le plan matériel, pis c'est basé encore sur les royaumes oubliés, fait que t'as le Feywild, le Shadowfell, après t'as les quatre éléments qui l'entourent, pis toutes les espèces de mondes autour de ça, qui en a plein, là, le Pandemonium, le Limbo, Isgard, Arborea, etc. Fait que super intéressant pour des aventures qui peuvent se passer un peu partout. Dans le guide des joueurs aussi, on a quelques animaux, quelques monstres de traits de base, là, genre des imps, des pseudo-dragons, zombies, squelettes, etc. Pour avoir regardé le guide du maître, les créatures aussi, je trouve qu'ils sont assez simplifiées. Dans le fond, t'as les statistiques de base des créatures, pas différentes de d'habitude. T'as leur challenge, donc puis le nombre d'XP qu'ils rapportent par rapport à leur challenge. Puis t'as aussi une liste d'actions, ce qui est nouveau par rapport, je sais pas si c'était même dans 4, mais c'est nouveau par rapport à la 3. Dans le fond, chaque créature a une liste d'actions spéciales qu'elle peut entreprendre durant un combat.
Fait que, ouais, il y avait ça dans la 4.
Au lieu, par exemple, de juste dire les armes qu'elle utilise, dans le fond, c'est comme... Ça fait penser un peu à des moves de Dungeon World. Ouais, ils ont différents moves qu'ils peuvent faire.
Ça, je sais qu'en 2, ça existait aussi.
Mais c'est ça. C'était dans le 3, c'était un peu différent. Ils disaient les comportements qu'il faut avoir. Oui, il y avait des moves spéciales, mais c'était pas décrit de même, parce que là, c'est pas nécessairement des moves qui font quelque chose dans les règles. Des fois, c'est juste pour dire qu'ils peuvent faire ça comme c'est dans leur comportement ou des choses comme ça.
Ben ça en fait ça a toujours été là, c'est juste des fois c'était pas aussi bien décrit parce que c'était dans la description. Exemple, non, il parlait des Stone Giant, tu sais qu'un Stone Giant en plus de te taper avec leur massue, ben ça a tendance à pitcher des grosses roches, tu sais. Puis en fait, techniquement, ils sont même supposés d'en amener dans leur ils en amenaient dans leur sac à dos, si tu veux, c'est pas des sacs à dos là, mais fait que tu dis, hein, pourquoi ils remettent des rushs dans leur sac cadeau? Mais ça, c'était pas vraiment là, tu sais, tu le voyais en lisant la description du monstre.
Mm-hmm.
Sauf que, un maître de jeu, il emmène un monstre, surtout s'il l'a tiré les rencontres au hasard. Il a pas le temps de lire, deux pages de description d'un monstre, là. Tu sais. Fait que, tu sais, il y a pas le temps de savoir, à moins qu'il connaisse tous ces monstres. Mais quand t'es rendu à quatre bestiaires, là, t'es connais pas toutes tes monstres, là. T'en as des préférés, là, mais à un moment donné, t'es connais pas toutes. Puis, tu sais, je sais, t'as pas le temps de savoir que oui, lui, il emmène des rushs dans son pack-sac. Dans le paragraphe après, tu sais que, à chaque mois, ils font une danse, une danse culturelle, ou je n'importe quoi, là. Tu sais, t'as pas le temps de lire ça, quelque chose qui va pas servir présentement, là, tu sais. Fait que, souvent, tu manquais de l'information importante parce que c'était pas structuré, de la même façon, ou maintenant, c'est vraiment structuré de façon à, bon, on a l'information sur c'est quoi ces monstres-là, comment ça vit un peu, whatever, là, tu comme là, une description plus complète, mais qu'est-ce qui est important au combat, ben c'est dans un petit tableau, c'est dans une petite section où est-ce que tu peux le voir tout de suite là.
Mm-hmm.
C'est ce que ils ont amélioré en fait, c'est plutôt la recherche de l'information que est-ce que l'information est là, parce qu'elle était là, c'est juste que t'en voyais pas.
Non, c'est ça, c'est pas mal plus instinctif, pas mal plus facile.
C'est ça, c'est juste une façon d'écrire qui puis de présenter, je pense, qui ont amélioré.
Sinon, ça va être pas mal le tour du guide du joueur. On passera pas, évidemment, tous les livres un par un, là. On va se contenter des règles de base.
Moi, il y avait une chose que il y a de nouveau dans la cinquième édition que j'ai remarqué. C'est, les styles de vie.
Les styles? Ah oui, c'est vrai.
C'est complètement nouveau, il y avait pas ça avant. Puis ça
maintenant, dans le fond,
un petit peu.
C'est ça, ils ont permis, ils donnent différents styles de vie dans lesquels vos personnages vivent, puis je pense faut que tu payes à chaque semaine ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Puis dans le fond, dépendant du style de vie que tu veux, tu vas devoir débourser cet argent-là, parce que on s'entend que ton personnage, en tant que tel, en dehors de ses aventures, il y a quand même une vie, faut quand même qu'il loge à quelque part, qu'il se nourrisse, etc. Fait qu'ils ils ont décidé de mettre cette réalité-là à travers justement les règles. Ce que je trouve quand même intéressant également, genre ouais. Tu dépenses pas ton cash à outrance si tu sais que tu pourras pas te loger.
Mm-hmm.
Fait que ouais, c'est une petite règle.
Moi je trouve ça vraiment intéressant ça. C'est une belle addition au niveau des cinquième édition.
Mm-hmm.
Ouais, c'est bien.
Dans le fond. Pour revenir à l'inspiration, je suis allé chercher, c'est dans le chapitre des personnalités et background. Tu peux le dépenser pour te donner un avantage sur un jet de caractéristique d'un jet de sauvegarde ou un jet d'attaque. Tu peux aussi, quand tu as de l'inspiration, toi-même décider de donner de l'inspiration, ton point d'inspiration à un autre joueur pour du bon roleplay. Ça, je trouve ça intéressant.
Uh-huh.
Parce que je suis pas le plus grand fan de ces genres de systèmes-là, de donner des points pour le roleplay. Parce que comme je disais, des fois, il y a des joueurs qui sont plus gênés, qui ont du fun pareil, qui sont pas des mauvais joueurs, mais qui vont plus rester en arrière puis intervenir quand c'est le temps. Fait que c'est, effectivement, ces joueurs-là vont gagner moins de points d'inspiration que les grands gueules. T'sais.
Oui, non, parce qu'en réalité, c'est un point d'inspiration, hein. Puis une grande gueule, il fait tellement tout le temps des affaires de même qu'il est plus inspiré. Fait que tu y en donnes pas. Tandis qu'un joueur qui est plus ça, quand il sort l'acte vraiment cool que t'aurais jamais cru que c'est lui qui fait, ben, tu vas lui donner. Mm-hmm. Fait qu'une grande gueule, tu lui donneras pas. C'est comme quelqu'un qui parle tout le temps, qui fait tout le temps des jokes, tu vas rire de ses jokes. Un peu, à un moment donné, tu vas rire, puis c'est correct. Mais là, t'as le gars qui parle quasiment jamais, mais quand il ouvre sa gueule, tout le monde part à rire, parce que, un, tu t'y attends pas, deux, tu... Puis il parle pas beaucoup. C'est la même affaire, les points d'inspiration. Quelqu'un qui fait tout le temps ça, il est pas inspiré, il est normal.
Non, c'est ça. Faut, c'est ça, tu donnes des points quand les gens se démarquent. C'est juste que c'est quand ça reste...
Tu te démarques, qui a eu une super bonne idée. Tu sais, quelqu'un qui a vraiment eu le flash.
On s'entend que ça reste très subjectif.
Mais ça...
Mais c'est faux.
Donner des points d'XP, c'est subjectif aussi, à part les points que tu mets sur les combats, mais tu sais, sur la qualité du roleplay, le fait qu'il s'est impliqué ou pas, c'est subjectif, là, tu sais.
Mais tu sais, c'est comme tu dis, là, tu y vas selon chaque personne, chaque joueur, là.
C'est ça, fait tu c'est comme... moi, je trouve pas ça mauvais, parce qu'une grande gueule. Peut-être au début, quand t'es un nouveau maître de jeu avec cette personne-là, tu vas y en donner plus, mais à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il mérite pas, parce qu'il est tout le temps le même.
Mais j'aime quand même le principe, justement, que les joueurs peuvent s'en donner entre eux également.
C'est ça. C'est ça, puis ça, c'est l'avantage. Puis c'est là que tu dis, tu sais, la personne qui est un peu plus, tu sais, comme... de son côté, fait que t'en as donné deux trois à ceux qui sont un peu plus grande gueule, puis tu sais qu'ils en ont su, puis là t'as la personne qui est plus en arrière mais qui fait ses actions dans le montant, puis là il sort le truc tellement trippant, tout le monde trippe, le maître de jeu il en donne un autre joueur il en donne un, fait qu'il peut en gagner plus qu'un d'un coup aussi.
Mm-hmm.
Fait que si tes joueurs sont pas, ah je les garde pour moi tout le temps, ce qui arrive, ça peut arriver aussi, tu vas voir que une personne plus restreinte dans ses actions risque de gagner un nombre de points plus intéressant d'un coup, tout simplement. C'est fait qu'il faut, c'est quand même, il faut voir ça aussi de ce côté-là. C'est pas juste un truc que tu donnes à des gens qui parlent trop comme les autres, là.
Ce serait à voir, mais probablement que je mettrais une espèce de maximum de points aussi, pour pas que ça devienne...
Non, mais c'est ça que je dis, c'est faut vraiment que ça c'est quelque chose qui vaille la peine.
Non, mais ça, mais pourquoi non plus que, par exemple, les gens font toujours souvent la peine, mais la personne, comme, abuse de ses points d'esprit, les garde tout le temps pour faire, toutes les utiliser dans le même combat ou des choses de même. Ça peut être plate un peu. Fait que...
Ouais.
Mais bon, il y aura toujours des min-maxeurs, c'est dur à éviter.
Ah oui, mais un bon DM est capable de dealer avec
yes.
Un min-maxeur tant qu'il est ouvert d'esprit.
Fait que en lumière de tout ça un peu, toi Marc, qui avait envie d'essayer la 5e édition, est-ce que t'as encore le goût de l'essayer?
J'ai plus que le goût de l'essayer. Particulièrement parce que je la trouve pas mal plus intéressante que la 3.5. Mais un petit peu inspiré de. Et inspiré de Dungeon World aussi.
Je trouve que c'est un bon compromis. Là,
c'est un bon mix entre la 3.5 et la 2 aussi. Il y a des choses de la 2 qui est revenue, qui avait disparu dans les autres versions. T'as des trucs aussi inspirés sur les jeux de rôle modernes. On dit Dungeon World, mais ça s'est inspiré de plein d'autres jeux, on s'entend. Je pense que c'est un bon retour pour les gens qui veulent jouer à donjon et qui sont très 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 donjons.
C'est comme je dis souvent, c'est pas mal rendu. Genre, de la façon qu'elle est maintenant la 5e édition, c'est un des jeux de rôle parfaits pour introduire les gens au jeu de rôle. Parce que un, c'est Donjon Dragon, tout le monde sait c'est quoi Donjon Dragon. Fait instinctivement, t'as plus tendance à vouloir jouer à quelque chose que tu connais même minimumment.
Uh-huh.
Puis les règles sont rendues vraiment simples. Avant, c'était pas mal dur de dire à quelqu'un qui connaît pas les règles, assis-toi puis joue avec nous autres, on va t'expliquer à mesure. Avec la 5e, tu peux le faire. On l'a même fait quand j'ai joué. Quelqu'un qui connaissait pas pantoute les jeux de rôle, elle s'est assise à côté de nous autres, elle nous regarde déjouer, puis après, genre, un petit bout de temps, elle comprenait exactement tout ce qu'on faisait, puis elle était capable de jouer. Fait que ça montre que les règles sont pas mal plus instinctives, pas mal plus accessibles.
Moi, j'ai juste une question, vu que tu y as joué à Donjons et Dragons, 5e édition. Les points d'expérience, que t'as ça seulement que dans les combats ou tu peux avoir ça ailleurs?
Si je me souviens bien, sont donnés précisément pour les combats. Mais je sais pas si... J'ai pas lu le guide du maître, ça fait que... Nous, ils nous en donnaient pour d'autres raisons également, instinctivement, parce que c'est ce qu'ils faisaient avant dans les autres éditions de donjons. Mais probablement que selon le guide du maître, tu peux en donner pour d'autres raisons aussi. Je suis pas mal sûr. Ça m'étonnerait que ce soit juste pour les rencontres. Sinon, ça augmente beaucoup trop le focus sur le combat. Puis pendant longtemps, ça a été pour moi une grosse lacune de donjon, justement. Là. J'espère qu'ils l'ont changé. Parce que avant, oui, la plupart des joueurs en donnaient pas juste pendant les combats, mais dans les règles, en tant que telles, ça parlait juste de donner de l'XP pendant les combats. Fait que oui, probablement, je pourrais pas dire, parce que je pense pas que c'est dans le guide des joueurs, malheureusement.
Je sais que dans le quatrième, c'était rare qu'il y en avait qui utilisaient ça, mais tu pouvais donner de l'XP aussi avec des challenges. C'était beaucoup plus basé sur le jeu de rôle... que sur le combat.
Mm-hmm. Ah, mais c'est ça. Même dans les anciennes versions, t'avais un paquet d'affaires sur l'utilisation de certaines de tes habilités, des choses comme ça aussi. Exemple, quand t'étais un voleur, picklocké, ça te donnait des XP. Trouver de l'or, ça te donnait des XP. Puis des affaires comme ça. Fait que,
servir de diplomate auprès d'un roi ou d'un...
C'est ça.
D'essayer de lever une armée pour combattre le... Tu faisais des checks de diplomatie ou de... ou de d'intimidation ou de bluff. J'imagine qu'il y a ça dans la 5 aussi.
Je suis pas mal sûr, mais c'est comme je te dis, quand j'ai joué, le guide du maître était pas sorti. Il y avait juste le guide des joueurs puis le manuel des monstres de sortie. Puis j'ai pas eu la chance encore de regarder. J'ai feuilleté rapidement dans une boutique le Dungeon Master Guide, mais à part ça. Et je serais curieux aussi de voir à quoi ça ressemble. Je sais qu'au final, il est moins indispensable qu'avant, le guide du maître. Évidemment.
Surtout que ils l'ont pas sorti dès le début.
Ouais, non, c'est ça. Mais bon, t'as comme les objets magiques, comme d'habitude, dedans. Je pense que t'as même les méthodes pour créer tes propres monstres, ce qui est super. Des choses comme ça. Fait que, je serais curieux de savoir aussi comment l'expérience fonctionne. Parce que c'est quand même central à un système de jeu.
Ouais. C'est vrai que c'est central, puis en fait, des fois, c'est ça. Ça dit,
dans le fond, la façon de jouer un peu. Mais bon, au final, je suis assez satisfait avec la cinquième. Ça, c'est loin d'être un de mes jeux de rôle préférés, mais reste que je suis très, très heureux de ce qu'ils ont fait avec.
C'est un beau résultat quand même pour un jeu qui a été fait par communauté, par comité, tu sais. Il y a tellement de monde qui ont donné leur feedback que oui, ça a permis d'aller chercher des choses intéressantes, mais en même temps, des fois, quand tu travailles comme ça, ça crée des monstres inutilisables, non...
Je pense qu'ils ont fait attention de prendre les bons feedbacks.
C'est ça.
Puis le livre est très beau aussi, des belles images, etc.
C'était quand même plusieurs années là, aussi de développement là, de cette façon-là.
Ça fait pas mal le tour de la 5e édition. On espère que ça, si vous avez pas joué encore, que ça vous donne le goût. Sinon, que ça vous, au moins ça vous informe sur ce que la 5e édition est comparé aux autres jeux et aux autres éditions. Fait que, sur ce, merci d'être des nôtres encore une fois. On vous souhaite une excellente journée et surtout,
Bonne aventure.